Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, le 36e de cette 7e saison. L'invité prévu aujourd'hui, André-Luc Montagnier, maire de Fleury, se trouvant dans l'impossibilité de participer, nous allons rediffuser une émission faite en mars dernier. Avec deux invités, invité EES aujourd'hui, Marie Bardet, bonjour.
Bonjour.
Sandy Kersi-Lafont, on va expliquer un petit peu plus tout à l'heure.
Bonjour.
Donc Marie Bardet, vous êtes romancière, vous avez écrit un roman qui s'appelle Babylift, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps aux éditions Emmanuel Colas. Et puis Sandy Kersi, ou Madame Lafont aujourd'hui, vous êtes une Vietnamienne d'origine, hein, adoptée en 1975, et vous avez vécu à Narbonne, mais votre vécu est en relation directe avec le roman de Marie Bardet. On va comprendre à mesure de cette histoire qui est presque invraisemblable, mais en tout cas qui est réelle, qui n'est pas fictive, alors que vous êtes peut-être indirectement l'héroïne d'un roman qui est de la fiction. Donc dans cette interview, ça risque de paraître un petit peu, parfois un enchevêtrement assez compliqué, mais on va essayer, pour l'auditeur, avec vous deux, d'y voir un petit peu plus clair entre, encore une fois, la fiction, le roman et la réalité. Alors commençons par Babylift. C'est un mot anglais qui signifie grosso modo un pont aérien organisé par l'armée américaine à la fin de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire au printemps 1975, si je ne me trompe pas, qui a consisté à rapatrier un certain nombre de bébés orphelins, la plupart des enfants de GIs, de soldats américains engendrés pendant la guerre du Vietnam, de les ramener alors aux États-Unis pour adoption, mais avec un contingent qui s'est retrouvé en France aussi. Rappelons quand même au passage que l'Indochine a été une colonie française, dont le Vietnam, pendant un certain temps. Alors Marie Bardet, comment arrive cette notion de « je vais écrire un roman sur Babylift » ?
Alors je voudrais juste revenir sur, vous avez parlé de rapatriement, on ne peut pas parler de rapatriement, oui, parce que ces enfants en fait sont nés au Vietnam de mère vietnamienne et très souvent de père vietnamien, parce qu'en fait l'affichage officiel par le Pentagone c'était effectivement d'évacuer des enfants qui étaient nés de père GI. Or moins de la moitié des enfants qui ont effectivement été évacués de Saïgon vers les États-Unis, puis comme vous l'avez rappelé, un petit peu vers la France aussi, se sont avérés ne pas être du tout des enfants métis. Et d'ailleurs, Sandy, qui est avec nous dans ce studio,
c'est son cas, oui.
Et de père et de mère vietnamiens. Donc on ne peut pas parler de rapatriement, et je dirais que l'affichage par la Maison Blanche à l'époque s'est révélé quand même être une supercherie, puisque finalement des enfants qui n'auraient jamais dû se trouver dans ces avions s'y sont retrouvés.
Mais c'était la raison invoquée au démarrage.
Oui, il fallait que le Congrès vote 2 millions de dollars pour financer cette opération, ouais, et ils ne les auraient pas votés pour des enfants qui n'étaient pas des enfants amérasiens.
Ouais, donc c'est un rapatriement déguisé ou faux.
Ou c'est pas du tout un rapatriement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'acteurs assez complexe. Et en fait, à l'époque de la fin de la guerre du Vietnam, on avait l'ambassadeur américain, Graham Martin, qui était en poste à Saïgon et qui refusait absolument l'hypothèse que l'Amérique puisse perdre cette guerre. C'était une première, la première puissance mondiale ne pouvait pas perdre cette guerre. Et il avait pensé que la réaction émotionnelle forte qui ne manquerait pas de se produire à l'arrivée de ces bébés descendant des avions dans les bras des Occidentaux produirait une réaction émotionnelle telle que l'opinion publique ferait pression sur le Congrès pour voter de nouveaux crédits pour continuer la guerre au Vietnam. C'était un calcul politique.
Voilà. Alors donc ce pont aérien se fait. Bon, c'est un fait historique. Parmi les nombreux avions qui vont vers l'Amérique, il y a un des tout premiers qui s'écrase au sol peu après le décollage de Saïgon. C'était un gros avion militaire qui avait été reconverti pour l'occasion, dont Sandy Kersi est une rescapée. On va y revenir tout à l'heure, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais en tout cas, c'est là-dessus que vous bâtissez votre roman, Marie Bardet.
Oui, l'ouverture du roman se fait effectivement avec le décollage du Galaxy C5A qui transporte donc 250 enfants environ. Hein, le chiffre est difficile à établir. Il n'y avait pas de manifeste de vol. Ce départ s'est fait dans une grande précipitation, dans le chaos le plus complet. La plupart des enfants rescapés, comme Sandy, pour certains, on n'a aucune preuve de leur identité puisque soit les identités ont disparu lors du crash, soit les enfants ont été embarqués avec juste une sorte de pseudonyme marqué sur un bout de carton attaché autour de leur cou par une ficelle. Donc il est très difficile de savoir exactement qui est vivant, qui est mort, combien il y avait d'enfants au départ et à l'arrivée. Et effectivement, Sandy fait partie des rares rescapés de cette tragédie.
Alors quand vous vous êtes mis au travail, vous vous êtes documenté forcément, vous écrivez un roman, mais qui est quand même basé sur des faits réels.
En effet, alors j'ai cherché de la documentation et en fait cette Operation Babylift, comme disent les Américains, a été très documentée par les Américains, mais avec un prisme très américain. Nous sommes les héros, nous sommes les sauveurs de l'humanité, et nous avons sauvé des enfants. La réalité est beaucoup plus complexe, comme je m'en suis évidemment aperçue en allant chercher ailleurs que dans ces ouvrages qui étaient vraiment très à la gloire de l'Amérique.
Oui, qui étaient biaisés, quoi, enfin de parti pris.
Oui, vraiment, c'était vraiment le White Savior qui intervient.
C'était du Rambo.
C'est un petit peu ça, c'est un petit peu tout ce qu'on connaît aussi de la guerre du Vietnam à travers des films. On a presque le sentiment que l'Amérique a gagné la guerre. L'Amérique l'a perdu, la guerre. On a le sentiment qu'elle l'a gagné, tellement elle l'a gagné dans les esprits par sa production culturelle. Il y a toute une industrie culturelle, et notamment de Hollywood, qui a fait en sorte qu'on a le sentiment que finalement le récit de la guerre du Vietnam ne peut être qu'un récit américain. Et c'était aussi pour détruire ces clichés-là et avoir une autre vision de cette guerre du Vietnam de l'intérieur par ces protagonistes que j'ai écrit ce livre.
Mais au démarrage, votre idée de base, ça n'est pas forcément de se pencher sur la guerre du Vietnam. Le thème, le fil conducteur, le fond de la trame de votre roman, là.
Disons que je souhaitais dans ce deuxième roman me pencher sur la relation entre la mère et l'enfant, la relation mère-enfant. J'avais esquissé ça dans mon premier roman, À la droite du père, où le père est central mais la mère occupe une place importante, et je voulais creuser en fait la relation mère-enfant et notamment ce qu'on appelle l'amour maternel qui se manifeste ou non à la naissance de l'enfant ou parfois plus tard dans la vie des protagonistes. Et je souhaitais revenir en fait sur un épisode assez tragique, enfin tout à fait tragique même, d'une personne chère que j'ai perdue, qui s'appelait Yann, à qui je dédie le livre, et qui avait été arrachée au bras de sa mère au Cambodge au milieu des années 70, donc en pleine guerre également, par deux occidentales qui sûrement croyaient bien faire, mais avec qui la greffe n'a jamais pris, et cette adoption a été absolument catastrophique, et Yann a mis fin à ses jours très jeunes parce que cet arrachement en fait des bras de sa mère l'avait propulsé dans un trou noir et qu'il ne s'en est jamais remis. Donc la question d'effectivement de comment des mères par amour, parce que c'était le cas de sa mère, comment des mères par amour peuvent en arriver à se séparer de leur enfant, à le, entre guillemets, abandonner dans un orphelinat, mais on voit quand on lit Babylift que c'est beaucoup plus subtil que ça, et qu'en réalité c'était pas des abandons, d'ailleurs elles ne signaient pas de renoncement à leurs droits, c'était pour la plupart
c'était
d'entre elles...
C'était une protection
Oui, une solution provisoire en fait pour les protéger, surtout pour les enfants métis, comme les héros de mon livre, parce que effectivement les métis portaient sur leur visage le fait qu'ils étaient nés de relations avec l'occupant. Ce qui, dans un Vietnam où le Sud-Vietnam était sur le point de perdre la guerre, évidemment, les exposait à des représailles.
Oui, voilà. Donc, c'est tout ce paradoxe de l'amour maternel par amour, donc, au sens le plus noble du terme, on en arrive à un abandon total ou partiel.
C'est ça, et souvent pas des abandons. Enfin, il y a aussi des cas, et je crois qu'on en a parlé avec Sandy, parce qu'elle a évidemment creusé aussi beaucoup le sujet, il y a aussi des femmes qui accouchaient d'enfants métis, ou pas métisses d'ailleurs, mais dans des relations qui n'étaient pas des relations officielles, cadrées, dans un mariage. Et donc ça pouvait être un oncle, un frère, une tante, un voisin qui prenait l'enfant et qui allait le porter dans un orphelinat parce que cet enfant n'avait pas sa place. Il y a quand même une société aussi très ritualisée, très, où les relations familiales sont très importantes. Et un enfant dans ces années-là, mais on peut aussi penser à nous, hein, dans la France des années 50, un enfant qui naissait hors mariage, il avait toutes les chances d'être né sous X parce qu'on n'admettait pas ces naissances-là. Donc,
il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a eu des cas nombreux comme ça. Et imaginez-vous, en plus, dans un contexte de guerre, ces enfants, effectivement, avaient toutes les chances de se retrouver dans un orphelinat.
Oui, voilà. Donc, voilà comment les choses naissent. Alors, vous êtes allé sur place, mais beaucoup plus tard, parce que, les relations avec le Vietnam, on le sait, les voyages au Vietnam n'ont pas toujours été faciles.
C'est surtout que je suis beaucoup trop jeune. Je suis beaucoup trop jeune pour y être allée. Donc, je fais en sorte que mon héroïne, May, qui a donc 25 ans, dans mon roman, au début des années 90, May va au Vietnam, donc dans ce pays dont elle a été, on va dire, arrachée à l'âge de quelques mois, puisqu'elle s'est retrouvée dans cet avion. Et elle veut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour elle, ce qui s'est passé pour son jumeau Sean, et essayer de retrouver sa mère. Donc elle va au Vietnam et elle retourne sur les lieux, son orphelinat, l'endroit où l'avion s'est crashé. Elle va comme ça accompagnée de Julien, qui est un ancien militant pacifiste qui a manifesté contre la guerre au Vietnam à Paris dans les années 68, au moment de mai 68. Elle va en sa compagnie à moto sillonner le Vietnam, et notamment le Sud-Vietnam, à la recherche de la vérité.
Voilà. Marie Bardet, on va marquer une première pause. Dans une deuxième partie, on va... Alors d'abord, vous nous lirez un passage de ce roman. Et puis, on va faire entrer sur le terrain, si je puis dire, Sandy Quercy, petit à petit, pour mieux comprendre comment les choses se sont passées.